Voici les titres du journal.
Les villes vaudoises de la région s'arment contre les cyberattaques. Après les traumatismes de Montreux et surtout de Rolles, des mesures existent pour se prémunir au moins. La meilleure, la formation. Des clichés suisses et beaucoup de sang. Tel est le menu du film Mad Heidi. Une scène cruciale du film gore et comique est tournée depuis une semaine dans l'amphithéâtre de Martigny. La mortalité due au Covid a fait baisser l'espérance de vie en 2020. Ce n'est certes qu'un chiffre théorique, mais elle a chuté de 11 mois pour les hommes et de 6 mois pour les femmes. Explication dans ce journal. L'initiative populaire pour des soins infirmiers forts veut combler le manque de personnes dans le domaine des soins en Suisse. Elle est soumise au vote le 28 novembre prochain. Le Conseil fédéral et une majorité bourgeoise du Parlement lui opposent un contre-projet. En football, le deuxième derby du Rhône de la saison de Super League a souri hier à Sion. Et en basket, le début de saison tourne au cauchemar pour le BBC Monté-Chablais qui a été fessé ce week-end à Neuchâtel.
Et pour la météo, c'est un temps bien ensoleillé qui nous est annoncé pour cet après-midi avant de retrouver les nuages. Pour demain, la météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour. Le spectre des cyberattaques de Rolles et de Montreux pousse les communes à renforcer leur sécurité informatique. Une démarche qui est même dans l'air du temps. Si des conseillers communaux poussent au niveau politique Abbé, Aigle ou Vevey, les villes n'ont pas attendu les incidents pour se mettre à la page. Hasard du calendrier, Vevey a fait l'objet d'un audit informatique l'année dernière. Les explications d'Yvan Lucarini, le syndic de la ville, au micro de Joël Espy.
Oui, c'est vrai que c'était suite à des débats au conseil communal en 2019, où du coup la municipalité d'alors avait mis au budget pour 2020 un montant nécessaire pour réaliser cet audit de sécurité, ce qui a été fait en 2020, donc avant toutes ces affaires qui nous occupent aujourd'hui, ce qui avait permis de démontrer qu'il n'y avait pas de faille majeure dedans, et puis de développer certaines pistes d'amélioration pour quelques points de détail, je dirais, entre guillemets. Donc c'est vrai que je pense que on a eu peut-être un peu de chance de pouvoir faire tout ce travail avant la survenance de ces événements.
Il y a un point central dans la protection, c'est vraiment la personne humaine. C'est un peu comme les accidents d'avion, le facteur humain, c'est le facteur principal.
Oui, alors c'est vrai, et ça aussi, je veux dire, en parallèle de cet audit, a été mis en place un système de formation interne sous la forme de petites vidéos qu'on reçoit toutes et tous sur nos emails. Une première fois qui nous explique une des problématiques de la sécurité informatique, par exemple le hameçonnage. Et puis ensuite, une semaine ou 10 jours après, on en reçoit une deuxième avec un rappel de ce qu'on a appris, et puis un petit test, simplement pour voir si les choses ont bien été enregistrées par les utilisateurs et les utilisatrices. Et puis, de temps en temps, sur certains points particuliers, il y a des petits pièges qui sont envoyés. Alors ça, c'est pas pour déterminer qui fait juste ou qui fait mal, mais c'est pour s'assurer qu'effectivement la formation a été suffisamment entendue. Nous, ce qu'on peut suivre, c'est l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, le nombre de personnes qui ont fait ou pas, et envoyer des rappels à ceux qui seraient par exemple en retard sur certaines formations. Mais ça, je pense que c'est vraiment la faille principale, et puis d'avoir fait toute cette prévention, je pense que ça nous a aussi jusqu'à maintenant bien protégés, même si c'est vrai que le risque zéro, ça n'existe pas.
Autre mesure à prendre, des systèmes solides au niveau des antivirus et des pare-feux. Vevey dispose également d'une cellule de crise. B a, quant à elle, souscrit une assurance en cas d'attaque. Il n'y aura pas de maison de la santé à Champéry. Le concept a été abandonné, comme l'explique notre confrère du Nouvelliste. En cause, le retrait d'un des associés et un plan financier visiblement pas assez solide. L'initiateur du projet, Jean-Marc Lavalla, estime en outre que son idée n'a pas bénéficié du soutien des autorités communales, lesquelles répondent qu'elles ne peuvent pas engager des fonds dans des projets privés. Le président Jacques Béra souhaite toutefois réfléchir à une solution pour réduire la charge de travail de l'unique médecin du village de Champéry.
Il faudra aimer le sang et la Suisse pour apprécier Mad Heidi.
Gore et à l'humour noir, imaginé par un Bernois, le film revisite l'histoire de la montagnarde et de ses acolytes Peter et Clara. Et c'est dans l'amphithéâtre de Martigny qu'une scène d'anthologie a été tournée. Imaginez un tournoi entre la fête nationale de lutte et les combats de gladiateurs avec des haches, des hallebardes et des montagnes de muscles. Producteur du film, Valentin Greutert se plaît à décrire au micro de Joël Espy les sévices que vont endurer les pauvres guerriers qui auront perdu leur combat.
Dans l'arène, il y a la coupe de la tête, il y a aussi le...
En palais, ouais.
En palais. Et oui, ça, il y a dans ce combat-là, Clara, on l'a brisé le dos. C'est comme ça qu'elle arrive dans la chaise roulante. Oui. Chez nous, elle n'est pas dans la chaise roulante du début, mais après.
D'accord. Okay. Et il y a des drapeaux suisses partout, hein. C'est pas un pays imaginaire aussi, vous auriez pu inventer un pays?
Si, si, c'est un pays imaginaire. C'est la Suisse, mais c'est quand même pas. On n'a pas de dictateur en Suisse. C'est vraiment. C'est un truc fantastique, il faut dire. C'est pas la réalité. Et non plus, on se moque de la Suisse. On fait pas ça. C'est juste, on joue avec les clichés.
L'équipe de tournage de Mad ID comprend 65 personnes et 120 figurants. Le tournage dans l'arène se termine aujourd'hui. Le film sortira en novembre prochain sur toutes les plateformes. Samedi, un motard est décédé lors d'un accident sur le col du Nufnen en Valais. Vers 14h30, un automobiliste suisse de 24 ans circulait au volant de son véhicule d'Ulriken en direction du col du Nufnen. À la sortie d'une courbe à droite, pour une raison encore indéterminée, il a dévié de sa trajectoire sur la voie opposée. Il est alors entré en collision frontale avec un motocycliste, un Suisse de 26 ans, qui circulait normalement en sens inverse. Ce dernier est mort sur les lieux de l'accident. La route du col du Nufnen a été fermée jusqu'à 18h. Le ministère public Valaisan a ouvert une enquête. Ce n'est certes qu'un chiffre théorique, mais la mortalité due au Covid en 2020 a fait chuter l'espérance de vie de près de 11 mois pour les hommes et de 6 mois pour les femmes. Ces chiffres sont fournis ce matin par l'Office fédéral de la statistique. Les Suisses ne sont pas égaux devant cette réduction de l'espérance de vie. Les Genevois et les Jurassiens sont parmi les plus affectés du pays. Les explications de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
L'année 2020, marquée par la pandémie, a provoqué un nombre record de décès en Suisse depuis 100 ans, 76 195, en hausse de 12%, dont 7600 attribués au Covid. L'augmentation des décès n'est pas uniforme. La variation atteint plus 25% à Genève, au Tessin et dans le Jura. Elle dépasse 20% à Fribourg et dans le canton de Vaud. La hausse est bien moindre dans les cantons du Nord et de l'Est de la Suisse. Derrière les chiffres absolus, il convient d'amener la nuance de l'augmentation relative du nombre de décès. En 2019, on avait 7,9 décès pour 1000 habitants. Cette proportion est passée à 8,8 pour 1000 personnes en 2020. L'augmentation du nombre de décès entraîne une diminution historique de l'espérance de vie à la naissance, presque un an de perspective de vie en moins chez les hommes, 6 mois chez les femmes. Là encore, cette espérance de vie réduite doit être relativisée. Elle passe de 81,9 ans à 81 ans chez les hommes, de 85,6 à 85,1 ans chez les femmes.
Et on a fait souvent référence durant cette crise du Covid à la pandémie de grippe espagnole de 1918. L'Office fédéral de la statistique met en exergue des similitudes et des différences.
5 similitudes statistiques. Les deux pandémies ont tué davantage d'hommes que de femmes. La deuxième vague a eu lieu durant l'automne. Le pic des décès a été enregistré en novembre. Les cantons de l'ouest de la Suisse ont eu des taux de mortalité plus élevés qu'en Suisse orientale. Et le nombre total de décès, toutes causes confondues, a atteint une valeur record aussi bien en 1918 qu'en 2020. Les différences majeures à présent, les décès attribués à la grippe espagnole sont nettement plus élevés que ceux dus au Covid. 22 000 morts de la grippe espagnole en 1918, ce qui équivaut à 5,6 décès pour 1000 habitants. Les 7600 morts attribués au Covid correspondent à 0,9 pour 1000 de la population. Autre différence, la grippe espagnole a principalement tué des personnes de 20 à 40 ans, alors que le Covid a surtout fait des victimes au-delà de 80 ans. On vous indiquait que l'an passé, l'espérance de vie a été réduite de 6 à 11 mois. En 1918, elle avait chuté de 10 ans pour les hommes et de 8,4 années pour les femmes.
Des similitudes et des différences mises en exergue par Serge Jubin. Les commissions de gestion des chambres fédérales demandent des éclaircissements supplémentaires dans l'affaire de la tentative de chantage contre le conseiller fédéral Alain Berset. Elles se penchent notamment sur une éventuelle utilisation abusive de fonds fédéraux. Des investigations sont déjà en cours concernant la procédure pénale qui a été menée contre la femme ayant tenté de faire chanter le ministre de la Santé en 2019. Rappelle aujourd'hui les services du Parlement. Les commissions souhaitent désormais vérifier la proportionnalité de l'engagement de l'unité spéciale Tigris de la police judiciaire fédérale lors de cette procédure pénale. Par ailleurs, elles vont aussi se pencher sur les critiques selon lesquelles le conseiller fédéral Alain Berset aurait utilisé des fonds fédéraux de manière abusive. Les salaires ont à peine augmenté en 2021 dans notre pays. Et compte tenu du renchérissement, les rémunérations réelles diminuent même de 0,1%, a communiqué aujourd'hui l'Office fédéral de la statistique.
Il manque 12 000 personnes dans le domaine des soins infirmiers en Suisse.
Dont 6 200 infirmières et infirmiers. L'initiative populaire pour des soins infirmiers forts veut y remédier. Elle est soumise aux citoyens suisses le 28 novembre prochain. Le Conseil fédéral et une majorité bourgeoise du Parlement lui oppose un contre-projet. Ce dernier met 1 milliard de francs sur la table pour renforcer la formation. Insuffisant, disent les initiants, les enjeux de ce scrutin avec notre correspondant à Berne.
Pour l'Association suisse des infirmières et infirmiers porteuses de l'initiative, applaudir les soignants le soir sur son balcon ne suffit pas, il faut agir. Pas seulement pour faire plaisir au personnel soignant, mais pour éviter l'actuelle désaffection. Plus de 40% des infirmières quittent leur profession après quelques années. Il est indispensable d'améliorer les conditions de travail. La présidente du comité d'initiative et de l'ASI, Sophie Lay.
Les personnes partent, c'est-à-dire qu'elles sont formées pendant 3 ans et ensuite souvent elles partent quelques années après. Un tiers partent avant l'âge de 35 ans. L'autre argument, c'est qu'il y a des conditions de travail qui permettent, par exemple, une planification en avance, des horaires, par exemple, qu'il y ait des possibilités pour faire garder ses enfants qui correspondent à l'amplitude des horaires de travail, mais aussi des conditions salariales qui soient équitables dans toutes les institutions de la Suisse.
Mis sous pression par l'initiative, le Parlement a adopté un contre-projet indirect, donc pas soumis au peuple, qui reprend la plupart des revendications. Le ministre de la Santé, Alain Berset.
L'initiative va trop loin sur un point, c'est ce qui concerne la réglementation des conditions de travail par la Confédération. Ça n'est pas le rôle de la Confédération d'agir dans ce domaine-là. C'est bien aux hôpitaux, aux HOM, aux organisations d'aide à domicile, ainsi qu'aux cantons, aux partenaires sociaux, de régler les conditions de travail.
Sophie Lay.
Ça fait plus de 20 ans maintenant que nous avons tout essayé. À force de tout essayer, nous avons pris la dernière possibilité que nous avons en Suisse, c'est-à-dire une initiative populaire.
Attention, danger, rétorque le Conseil national PLR valaisan Philippe Nantermo. Régler les questions salariales dans la Constitution est un poison.
C'est un poison parce qu'elle est complètement anti-système et elle introduit dans le droit fédéral quelque chose que nous n'avions pas jusqu'ici. C'est-à-dire qu'actuellement, ce sont les partenaires sociaux qui négocient les salaires, qui fixent les conditions de travail. Et cette initiative demande en fait de casser ce système qui fait la force quand même du marché du travail en Suisse pour adopter un système un peu à la française où la Confédération impose aux employeurs de fixer les salaires, de fixer les conditions de travail, alors que la Confédération n'emploie pas d'infirmières, la Confédération n'exploite pas d'hôpitaux.
Les adversaires de l'initiative craignent encore que son application coûte cher et renchérisse les primes maladie, ce que conteste Sophie Lay.
Absolument pas, parce que d'abord les mécanismes de régulation, ils existent et ils sont toujours existants. Plus de personnel permet de diminuer les coûts de la santé en diminuant tout ce qui est des complications durant les séjours hospitaliers, la durée de séjour à l'hôpital, mais aussi quand on est, par exemple, on a une personne en EMS, qu'elle ne revienne pas à l'hôpital parce qu'elle manque de soins compétents dans son lieu de vie.
Après de longs débats, une majorité du Parlement demande de rejeter l'initiative au profit du contre-projet par 116 voix contre 74 au Conseil national et 30 contre 14 aux États. Les premiers sondages donnent l'initiative nettement gagnante à près de 80% de oui. L'expérience montre que les initiatives perdent du terrain jusqu'à la votation, mais les sondeurs sont d'avis que la marge est vraiment grande pour cette initiative-ci. Les adversaires du texte manqueront par ailleurs de moyens. Aucune grande organisation ne s'engage dans ce combat qui semble perdu d'avance. Encore que, dit le Conseil national UDC bernois Albert Rusty.
La base ne connaît pas assez ce contre-projet. Et j'ai vu, si on explique les choses, alors on a eu une assemblée des délégués bernoises. Là, quand j'ai pu expliquer la situation, 200 contre 14 ont pris la position de non contre l'initiative. Alors, c'est une question d'information.
Si l'initiative est acceptée le 28 novembre, ce serait une première historique. Jamais jusqu'ici, une initiative populaire émanant d'une organisation syndicale n'a obtenu de majorité devant le peuple et les cantons.
De Berne, Serge Jubin.
La désinformation est devenue un problème important en Suisse suite à la pandémie.
C'est ce que révèlent les résultats d'un sondage du Centre de recherche sur le public et la société de l'Université de Zurich publié aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont entre autres montrés du doigt. Pour 62% des participants, ils représentent la principale source de désinformation, suivie par les médias alternatifs et les portails vidéo. Près d'un quart de la population déclare tomber souvent ou très souvent sur de fausses informations. Toutefois, la qualité médiatique est restée stable dans l'ensemble. ensemble. Les sites d'information comme source de désinformation et la télévision sont cités à moins de 20% par les sondés. La population se base en majorité sur les infos issues des médias journalistiques de la Confédération et des autorités pour vérifier le contenu des fake news. Les seniors sont aujourd'hui mieux intégrés dans le monde du travail qu'il y a 10 ans. Cependant, les entreprises ne semblent pas démontrer d'énergie débordante à vouloir les recruter. Voilà pour l'essentiel de ce qui ressort d'une étude réalisée pour le compte de Swiss Life et publiée aujourd'hui. Pourtant, avec le vieillissement démographique, les seniors pourraient combler la difficulté croissante des sociétés à dénicher des collaborateurs qualifiés. Si la plupart des entreprises ne sont pas opposées à l'exercice d'une activité lucrative à l'âge de la retraite, elles n'encouragent pas pour autant une telle pratique et mènent rarement une politique active en faveur des intéressés. Les forces armées suisses veulent recruter de jeunes talents en informatique et proposent une cyberformation dès la fin novembre. Un cours d'une journée sera proposé, suivi par une offre en ligne. Le scénario choisi est l'un de ceux qui se produit régulièrement quand des hackers tentent de pénétrer les systèmes informatiques de l'armée ou d'une autre organisation, expliqué aujourd'hui le porte-parole de l'armée Stefan Hofer, revenant sur une information publique. En septembre, le Conseil fédéral a décidé de créer un nouveau cybercommandement. Une formation préalable similaire existe déjà pour les femmes pilotes militaires, les maîtres chiens ou les pilotes de moto.
Le Soudan est en proie à de nouveaux troubles.
L'armée a en effet arrêté ce matin la plupart des dirigeants civils du pays. Des faits qui interviennent après des semaines de tensions alors que civils et militaires se partagent le pouvoir de transition depuis le renversement en 2019 de l'autocrate Omar el-Béchir. La Ligue arabe a appelé dans la matinée toutes les parties à respecter d'ailleurs cet accord de partage. Et puis on a appris tout à l'heure que l'armée avait tiré ce matin sur des manifestants refusant le coup d'État à Khartoum, alors que le premier ministre soudanais avait appelé à protester justement contre ce coup d'État. À noter que l'Allemagne était l'un des premiers pays européens à réagir. Elle a condamné la tentative de ce coup d'État qui doit cesser immédiatement selon elle. L'Union africaine en appelle de son côté à une reprise immédiate du dialogue entre civils et militaires. Le gouvernement colombien a annoncé hier qu'il préparait l'extradition vers les États-Unis d'Otoniel, chef du plus puissant gang de trafiquants de drogue du pays. L'homme de 50 ans a été capturé la veille lors d'une opération dans le nord-ouest du pays. Quelques 700 hommes soutenus par 18 hélicoptères ont participé aux raids militaires et policiers dans la jungle pour capturer Dairo Antonio Usuga, le chef du clan Del Golfo. Amnesty International a annoncé aujourd'hui la fermeture de ses bureaux à Hong Kong, estimant impossible d'y travailler librement en raison de la loi draconienne sur la sécurité nationale imposée l'an dernier par Pékin. Cette décision, prise le cœur lourd, est due à la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong qui rend impossible en pratique pour les organisations de défense des droits humains à Hong Kong de travailler librement et sans crainte de sérieuses représailles de la part du gouvernement, a expliqué dans un communiqué le président de l'ONG.
Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont à nouveau atteint un record en 2020.
Et cette situation semble se poursuivre cette année et même s'accélérer, a dit aujourd'hui à Genève l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, dans un rapport. L'OMM qui répète que le ralentissement économique lié au coronavirus n'a pas eu d'impact significatif sur ces concentrations, même si les nouvelles émissions de CO2 ont reculé. Ainsi, il reste qu'aussi longtemps qu'elles se poursuivent, les températures vont continuer à augmenter, avec davantage de situations météorologiques extrêmes ou de montées du niveau des mers et des océans. Coca-Cola, Pepsi, Unilever et Nestlé sont les plus gros pollueurs de plastique au monde, selon le rapport Branded publié aujourd'hui. Plus de 11 000 bénévoles dans 45 pays ont nettoyé des plages dans le monde entier pour identifier les compagnies impliquées. Ainsi, plus de 330 000 morceaux de plastique jetable, principalement des emballages à usage unique, ont été trouvés par les volontaires dans les villes, le long des plages et dans les parcs, puis triés par marque. Les résultats montrent que Coca-Cola, suivi de PepsiCo et Unilever sont les plus gros pollueurs de plastique au monde, et cela pour la 4e année consécutive. Quelques 22,8 millions d'Afghans, soit plus de la moitié de la population, seront cet hiver en situation d'insécurité alimentaire aiguë, avec pour corollaire de mettre ce pays déjà instable aux prises avec l'une des pires crises humanitaires au monde, ont averti aujourd'hui des agences de l'ONU, et d'ajouter que la crise alimentaire en Afghanistan est déjà plus grave que celle en Syrie ou au Yémen. Seule la République démocratique du Congo est dans une situation plus désespérée. En football, le FC Sion tient sa première victoire de la saison à l'extérieur. Les Valaisans sont allés enlever le deuxième derby du Rhône de la saison hier sur le terrain de Servette. Grâce à une ouverture du score tombée dès la 4e minute de jeu, les Célinois ont ensuite pu se contenter de défendre et de museler l'attaque genevoise. Au final, les protégés de Paolo Tramezzani se sont imposés 2-1. De quoi empocher 3 points précieux. Kevin Fickenscher, gardien et capitaine du FC Sion, revient sur ce scénario de ce match. Parfait pour son équipe.
Je dois donner un compliment à vraiment toute l'équipe parce qu'on s'est battu. J'ai eu des vrais lions devant moi qui sont battus sur tous les ballons, qui ont montré une mentalité exemplaire. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on a déjà fait le week-end passé. Mais il nous a manqué un petit quelque chose à la fin. Et aujourd'hui, je suis tout simplement content parce que l'équipe, elle a mérité ces 3 points. Et aujourd'hui, on a vraiment fait les sacrifices qu'il fallait. On a tout donné. On avait cette envie de ramorter ces 3 points. Chose qui a été faite dans un derby. En plus, ici à Genève, on rapporte ça en Valais. Donc, c'est super.
Des propos recueillis par nos confrères de Rhône FM. De son côté, le Lausanne Sport s'est incliné ce week-end sur le terrain de Young Boys, battu 3-2 par les Bernois. Les Vaudois bouclent cette 11e journée de Super League à la dernière place du classement.
En basket, le début de la saison est en train de tourner au cauchemar pour le BBC Monté-Chablais.
Battu pour la 4e fois en 4 matchs, la formation valaisanne a sombré samedi sur le terrain d'Union Neuchâtel. Les Sangliers, qui ont été dominés dans tous les secteurs de jeu par leur adversaire, ont subi une défaite logique. Après avoir notamment encaissé un partiel de 19-0 durant la 3e période, les Montaisans se sont inclinés 80-55. Mais au-delà du résultat, la prestation livrée par les Chablaisiens ce week-end a de quoi inquiéter. Plusieurs signaux sont même alarmants. Les impressions de l'entraîneur du BBC Monté-Chablais, Patrick Pembélé.
La même chose que j'ai dit après à Suisse Centrale, mais un peu plus avec des mots crus peut-être. Notre caractère. Ils s'entendent bien les joueurs, ils s'entendent bien. Mais ça doit se refléter sur le terrain. Ça doit s'inviter pour se battre pour l'autre qui fait des erreurs. On est jeunes, ils font tous des erreurs. Ils font tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas fait une erreur aujourd'hui. Mais certains, à un moment, ils abdiquent et ils arrêtent de se battre pour les uns pour les autres. Et ça, c'est un problème. Et c'est mon problème. Je dois fixer ça. On a fait venir ces joueurs. Je les ai fait venir, je les ai choisis. Certains même que je connais depuis l'année passée ont un caractère. Et aujourd'hui, il est absent et certains sont juste totalement absents et ils ne montrent rien.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Pour son prochain match, le BBC Monté-Chablais aura fort à faire pour décrocher une première victoire. Les Valaisans se rendront dimanche à Massagno, une équipe qui est toujours invaincue cette saison.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Decathlon, le numéro 1 de la location et équipement de ski à Comté, Colombey et Villeneuve et sur decathlon.ch.
Le temps sera bien ensoleillé cet après-midi malgré quelques nuages élevés. Il va faire 14 degrés maximum en plaine, 12 à 1000 mètres et 7 à 2000 mètres. Pour demain, le temps sera nuageux avec quelques gouttes possibles le matin. La limite de la neige sera située vers 1800 mètres d'altitude. Et puis, l'après-midi, Météo Suisse nous annonce un temps sec avec des éclaircies. Demain, le mercure indiquera de 5 à 13 degrés en plaine, de 3 à 10 à 1000 mètres et de 2 à 4 degrés à 2000 mètres.